retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis passé par là. Je sais comment et ce que j'ai été chercher dans tout ça. Je sais aujourd'hui quelle lumière m'habite et
que t'as voulu éteindre
chaque jour de ma vie sans drogue. Et puis surtout, il faut absolument que je parle à tous ces gens qui vont écouter ce podcast pour leur dire combien la vie est possible sans drogue et surtout que c'est possible de s'arrêter.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Notre invité, c'est une voix, un regard, une façon d'être là, entier, sans détour. Depuis 13 saisons, il donne la parole à ceux qu'on n'écoute pas. Il capte les silences, les fêlures, les vérités qu'on n'ose pas dire. Il rêvait d'être reporter de guerre, il est devenu un guerrier du reportage. Hyperactif, touche à tout, il a vécu mille vies, régisseur, chanteur, producteur. Aujourd'hui, il sillonne les grandes artères parisiennes sur son scooter, enchaînant les tournages et les émissions nocturnes sur Europe 1. Son émission Dans les yeux d'Olivier est un succès incontournable et ses antennes libres captivent plus de 200 000 auditeurs par son écoute sincère, sans filtre. Il aborde tous les sujets sociaux, familiaux, spirituels, profondément humains, mais il parle peu de lui-même. Pourtant, son parcours est unique, forgé dans l'épreuve, mais aussi et surtout dans la gratitude et l'amour de la vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un tournage qu'il me consacrait. Ce jour-là, entre deux entretiens, il m'a lancé une phrase presque anodine. Moi aussi, j'ai connu ça. Ça, l'addiction, l'héroïne. Un combat qu'il n'avait jamais raconté, pas dans les médias, pas en public. Parce que dire qu'on a touché à ça, c'est porter une étiquette et affronter le regard des autres. Peu de gens le savent et j'ai le privilège et la responsabilité d'explorer avec lui cette partie de son histoire dans le seul but, me dit-il, d'aider celles et ceux qui souffrent de cette maladie. Parce que dire qu'on a été addict à l'héroïne, c'est affronter une double peine, celle de la dépendance elle-même et celle du regard des autres. Aujourd'hui, il parle, pas pour se justifier, pas pour s'excuser, juste pour dire « c'est une maladie et on peut s'en sortir ». Alors merci Olivier pour cette parole rare et sensible et essentielle que tu vas nous offrir aujourd'hui. Je suis extrêmement heureuse de te recevoir.
Je suis très content et très honoré d'être là, Keren, déjà. Si je fais cela aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'ai une très grande confiance en toi et que j'ai écouté ton travail et que je trouve que il a un sens. Ce sens, il est très important pour moi, c'est qu'il est à destination des autres. Parce que Beaucoup de personnes se cachent leur réalité, mais beaucoup de gens sont drogués, beaucoup de gens sont addicts à l'alcool, beaucoup de gens sont addicts aux médicaments, beaucoup de gens sont addicts à des drogues. Ça va aujourd'hui, tu sais, de ce qu'on vend là dans les magasins aujourd'hui, le CBD à la fumette qui de toute façon, est devenu une habitude, comme le petit whisky du soir, le petit joint du soir devient très vite le deuxième petit whisky, le deuxième petit joint, le troisième petit whisky, le troisième petit joint. Et finalement, ton travail a un sens parce que beaucoup de gens sont addicts et quoi qu'il arrive, à un moment, l'addiction pose un problème dans la vie. Et il va créer, cette addiction va créer des failles. Et ces failles peuvent se transformer en blessures parce qu'un jour, quoi qu'il arrive, comme on dit chez les Narcotiques Anonymes, c'est ce que j'ai puisé, en tout cas j'ai puisé beaucoup de choses chez les Narcotiques Anonymes, pas tout, on en parlera peut-être, mais on te dit chez les NA que si tu continues, tu as au meilleur la chance de te retrouver à l'hôpital, mais au pire, au cimetière ou en prison. Et puis, on te fait cette promesse aussi que si tu arrêtes de consommer, ta vie va s'éclairer, va se transformer. C'est juste, ce qui m'est arrivé. En fait, lorsque j'ai enfin décidé d'arrêter de consommer. Mais je reviens à ton travail et ce pourquoi j'ai accepté ton travail, comme je te l'ai dit, il a du sens parce qu'il est il est pour les autres, il montre aux autres tous les dangers de toutes ces drogues que je viens de citer, mais aussi parce que l'héroïne revient très fort aujourd'hui dans la société française. Elle a toujours été présente dans la société américaine, mais elle revient très fort en Europe aujourd'hui.
Je savais pas.
Ben voilà, sache-le, c'est que aujourd'hui l'Europe est à nouveau submergée d'héroïne. Mon meilleur ami est protection judiciaire de la jeunesse et pas plus tard que la semaine dernière, il s'occupait de 4 gamins de 16-17 ans qui faisaient partie d'un gros réseau de trafic sur l'heure et qui générait plusieurs centaines de milliers d'euros. L'héroïne revient en force aujourd'hui, sans doute parce que l'héroïne est quelque chose, tu sais, qui calme et que beaucoup de drogues festives ont envahi et ont submergé notre jeunesse depuis notre jeunesse qui est devenue moins jeune. Hein. C'est avec l'arrivée de la musique électronique il y a 20 ans, 25 ans, l'ecstasy, le MDMA, tout ça a entraîné une consommation assez massive de toutes ces drogues soi-disant festives, mais qui sont une vraie catastrophe. Mmh. Et puis, sont venus s'ajouter par-dessus ça ces drogues qui sont liées à certaines pratiques sexuelles dont on a entendu parler lors de l'affaire Palmade, que je ne connais pas.
La 3MMC.
Voilà, mais dont je sais aujourd'hui.
Le chemsex pratique.
Quand, ouais. Voilà, exactement, que c'est extrêmement pratiqué, que ce sont des drogues très fortes et que l'héroïne vient à la fin, calmer tout ça, parce que toutes ces drogues, on sait, quand ça redescend, sont sujets à provoquer des angoisses, à une sorte de vide intergalactique que l'héroïne vient calmer.
Donc aujourd'hui, mais c'est une sacrée illusion de se dire qu'on va finir tout ce cocktail Molotov par de l'héroïne pour calmer. Tu vas bien nous expliquer ça aussi. À la fin aussi de l'héroïne, à la fin de, quand les effets se dissipent, il se passe aussi des choses graves.
Alors, il se passe bien évidemment des choses.
Qu'est-ce qu'on met après l'héroïne, en fait?
Après l'héroïne, il y a le manque, il y a être addict, et c'est une horreur
voilà.
aussi.
Non, mais s'ils finissent avec de l'héroïne comme si ça allait nous calmer, il faut bien comprendre qu'après l'héroïne, il y aura besoin d'autre chose pour calmer le manque d'héroïne.
Mais en tout cas, visiblement,
ouais,
tout ce que les consommateurs aujourd'hui ont trouvé pour atterrir, comme ils le disent en douceur, c'est l'héroïne.
Parce qu'en plus, dans le chemsex, je crois qu'on a très peu le droit de boire. Il y a des doses très, très, très... C'est ouais. hyper calculé.
Je ne sais pas du tout. Ouais. Moi, en tout cas, ce que je connais du marché, de par mon métier, tu le sais, je parle avec beaucoup de gens, beaucoup de magistrats, beaucoup de policiers, beaucoup d'éducateurs. Et il se trouve que... la cocaïne est bien évidemment très très importante.
Mais c'est devenu ringard un peu.
Je sais pas.
Mais tout ça, on le sait.
J'ai entendu Big BD l'autre jour chez toi dire que ça devenait ringard. Je peux te dire que l'autre jour, j'étais dans un hôpital en tournage, hein, chez un addictologue, et que je me suis étonné à voir passer. Plein de... Parce que je ne savais pas comment... Le chemsex, je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça se consomme et tout ça.
Et... Le chemsex, c'est la pratique, ce n'est pas la drogue. Hein. C'est la 3MMC, la drogue.
Mais qui s'injecte.
Voilà, apparemment. Okay.
Eh bien, parce qu'il y avait un défilé de gens qui venaient chercher des seringues. Et donc, à un moment, j'ai demandé à un des psys
T'étais
qui
où
était là.
C'était
je ne peux pas te dire.
Ah, oui.
Parce que... Voilà, il faut.
Là, je comprends.
Voilà, pour garder. Mais j'ai dit, mais
qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, il m'a expliqué que. Mais que c'était cette nouvelle pratique et que ça s'injectait.
C'est vrai,
et
ça.
Et que oui, tu as raison. Il m'a dit que c'était arrivé par le milieu gay où c'était extrêmement pratiqué aujourd'hui, mais que ça touchait le milieu hétéro.
Maintenant, oui. Voilà.
Bon, tout ça pour te dire que l'héroïne est revenue en force.
Ouais. Et ça dit beaucoup sur notre époque, en tout cas c'est important de le dire.
Ouais, et puis surtout, bah, voilà, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en parler. Si j'en ai pas parlé avant, je vais te dire, c'est parce que les gens d'abord avaient portaient un regard sur l'addiction. Il n'y avait pas Internet avant, il n'y avait pas un podcast comme le tien qui montre que la drogue, ça n'est pas un vice. La drogue, ça n'est pas être tordu. La drogue, à un moment, quand tu y es confronté, c'est juste un échappatoire, c'est une façon de s'oublier. C'est une façon d'arrêter de souffrir.
Souvent, dans les salles des narcotiques anonymes, on entend les gens dire, et heureusement que cette solution a existé un temps, parce que je ne serais peut-être pas là pour en parler. C'est-à-dire qu'au début, ça nous a peut-être sauvé la vie.
Peut-être. En tout cas...
On va en parler, là, justement.
Ouais. Moi, je ne regrette rien de tout ça, parce que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis passé par là. Je sais comment et ce que j'ai été chercher dans tout ça. Je sais aujourd'hui quelle lumière m'habite
et que t'as voulu éteindre
chaque jour de ma vie sans drogue. Et puis surtout, il faut absolument que je parle à tous ces gens qui vont écouter ce podcast pour leur dire combien la vie est possible sans drogue et surtout que c'est possible de s'arrêter. Voilà, c'est juste... Mais on va en parler, on va développer tout ça.
Presque on pourrait arrêter
parce
là.
Parce qu'on a du temps.
C'est grand. Ah ouais, on a du temps. T'as dit énormément de choses.
J'ai enlevé mes baskets.
Oh, bah, alors ça c'est super.
C'est signe qu'on va prendre notre temps.
Ah, j'adore.
Tous les soirs, sur Europe 1, j'enlève mes baskets.
Normalement, je demande la définition de l'addiction, mais j'ai l'impression quand même, dans tout ce que tu nous as dit, c'était tellement là. Si tu as autre chose à ajouter pour toi, mais moi, je trouve ça fabuleux de dire que l'addiction, ce n'est pas sale, ce n'est pas tordu. Moi, j'ai aimé cette définition à contrario. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire?
L'addiction, de toute façon, l'addiction, c'est un... Tu viens combler quelque chose. Tu sais, j'ai écrit un livre qui va sortir chez Fayard en janvier 2026 et qui s'appelle « Journal d'un imposteur ». Et j'explique comment les racines de ce syndrome prennent leur puissance et la naissance dans le terreau de tes douleurs, de tes plaies.
De l'enfance.
Dans même in utero, je pense que tu commences à percevoir des choses et toutes nos premières perceptions nous construisent, quoi qu'il arrive. Mais même si nous sommes uniques chacun, puisque nos mains déjà nous définissent comme étant des êtres uniques, il n'y a pas une main pareille que l'autre, nous sommes tous différents les uns des autres. Sauf que je crois que la perception que tu as des choses et la sensibilité que tu peux développer va te confronter très vite à des possibilités, des situations où tu peux t'abîmer, où tu peux te faire mal. Et je pense que le vide, la plaie, elle se crée là, elle se creuse là, et que la drogue, quand tu la croises, parce que tu peux très bien, en tout cas, moi j'ai 60 ans aujourd'hui, à 15 ans, je pouvais très bien ne pas la croiser, la drogue. Sauf qu'aujourd'hui, un môme à partir de 11 ans, il la croise, la drogue. Mmh. Il la croise sur Internet déjà, par l'imagerie, et quoi qu'il arrive, il va la croiser parce que c'est bien de fumer des pètes. On sait tous, hein. Moi, j'ai commencé à fumer parce que j'avais des copains qui fumaient. Et je me rappelle de ma première clope qui m'a étouffé. C'était au Cap Ferré, derrière un cabanon de CRS, où j'ai failli m'étouffer. C'était une gitane sans filtre. J'ai commencé quoi? À fumer cette gitane parce que c'était interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que la drogue, elle vient vite combler un vide. Et si t'es... Si tu es sensible, si tu es hypersensible, si tu... et je vais te faire une révélation que j'ai jamais fait, si tu es HPI, parce que je n'en ai jamais parlé, parce qu'en plus, ces dernières années,
Il y en a beaucoup.
Mais non, mais c'est parce que c'est devenu une mode de dire que t'es HPI.
Et TDAH.
Sauf que moi, ça fait 40 ans que je le sais et que ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je me suis senti souvent seul. Je me suis souvent senti dans un ennui profond. Je me suis souvent senti différent. Parce que c'est pas parce que ça va vite que tu comprends les choses plus vite que les autres que t'es le roi t'es le cador de la bande.
Parfois, c'est bien de pas comprendre.
Aussi. Tu vois, je te parlais de mon bouquin parce que je décris à un moment le monde dans lequel j'ai évolué et j'explique que 80% pratiquement de la population mondiale traverse la vie
sans se poser de questions.
Sans se poser de questions. De la même manière, le matin, ils bouffent, ils vont aux chiottes, après ils vont bosser, le soir ils mangent, ils dorment et le lendemain ça recommence. Il peut y avoir plein de gens addicts hein, là-dedans, mais par souffrance, alcool, machin. Nous, on va parler d'autres addictions, c'est-à-dire d'addictions profondes, de celles que tu vas chercher, de manière très consciente. Comme j'ai été chercher, moi, dans l'héroïne, ce qui allait, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être me maintenir en vie.
Tu veux dire que tu n'es pas tombé dedans comme si tu avais fait un faux pas, c'est quelque part, consciemment, tu savais ce que tu allais chercher, tu savais ce que tu avais besoin de trouver.
Je ne vais pas avoir la prétention de dire ça, mais...
Mais oui.
Mais la première fois que j'ai pris de l'héroïne, c'était tellement extraordinaire, tellement... beau au niveau de mes sensations avec moi-même. Je me rappelle du plaisir que j'ai éprouvé la première fois que j'ai sniffé d'héroïne. C'était un truc voilà, que j'avais jamais ressenti. Et
c'est
bien pour ça... J'avais 18 ans. Et c'est bien pour ça que l'opium, l'héroïne, tout ce qui est à base d'opiacés, moi, c'est toujours tout ce que j'ai aimé. J'ai toujours détesté la cocaïne, j'ai toujours détesté l'alcool. Je trouve que ces deux drogues-là rendent complètement con.
Surtout ensemble.
Oui. Bah, en tout cas, à partir de deux cocaïnomanes ou de deux ivrognes, je pense qu'il faut vite s'éloigner parce qu'il ne va pas se dire grand-chose d'intéressant.
La soirée est foutue.
En tout cas,
elle va être monopolisée, en tout cas.
Voilà, je te dis pas que...
Bah, c'est sûr que l'héroïnomane, on l'entend pas trop. Hein.
Mais il y a plein de clichés sur
l'héroïnomane. Il y a une grosse compète, là.
Mais
non, mais ça va être bien, ça, justement, pour les clichés. Les gens pensent que c'est un mec qui pique du nez dans un coin, alors qu'il y a des gens qui bossent sous héroïne tous les jours et on le sait même pas.
Non, ça peut être... Moi, ça pouvait me rendre... Alors, je pouvais, tu vois, rester 4-5 jours tout seul, sans avoir besoin de qui que ce soit. Mais là, on est dans... On est dans un plaisir autre, mais on est dans quelque chose de très intime, finalement.
Ouais,
dans un plaisir très...
Moi, c'est personnel, c'est
solo. Bon, voilà. L'héroïne, en fait, sur la longueur, ça devient de moins en moins ça.
Ah.
Parce que comme toute drogue, la première fois que t'en prends, c'est l'extase. Mais qu'après, quand ça devient une nécessité pour pas être en manque... C'est beaucoup moins rigolo.
Non, pas toutes les drogues. Il y a même des drogues pour lesquelles c'est pas bien du tout de suite. Hein. On a envie que... Regarde, tu en as parlé pour la clope. On s'étouffe, on n'aime pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fume 3 paquets par jour. On va revenir quand même à cette première fois. Et qu'est-ce qui t'a amené là? Puisque tu dis, quelque part, il y a cette histoire donc, de haut potentiel intellectuel, de souffrance, d'ennui, d'incompréhension du monde qui t'entoure. Qu'est-ce que c'est l'enfant? Genre, Olivier, enfant, ado, c'est quoi?
Olivier, enfant, ado, c'est un... C'est un ado écorché vif qui a vu son petit frère arriver quand il avait 10 ans. Un petit frère attendu comme le Messie et qui s'est vu mis de côté complètement. C'est un enfant qui n'a pas reçu beaucoup d'amour. Et puis ensuite, c'est un adolescent qu'on n'a pas reçu beaucoup plus. Donc, qui s'est dit, mais si mes parents m'aiment pas, mais c'est que je suis une merde ou que je ne vaux pas grand-chose. Voilà d'où elle vient, l'héroïne.
Je pense au jour où tu m'as interviewé avec ma sœur. Et c'est marrant parce que c'est vrai que toi, tu arrives à écouter les gens sans parler de toi, chose que moi, j'arrive très peu à faire. Et en fait, à ce moment-là, tu t'es pas... Enfin, moi, j'ai l'impression que ce que tu me racontes, c'est ce que je t'ai raconté. Bon, même si j'ai reçu beaucoup d'amour quand même de mes parents, mais moi, c'est le début dans ma tête de tout. C'est cette petite fille qui arrive, j'ai 9 ans, et on l'a attendue parce que c'est la petite dernière, et que d'un coup, en fait, on m'oublie, qu'on m'a jamais donné la place. Je ressens
et
vraiment ça. Ah ben moi, ça a duré toute ma vie.
D'accord.
Mais c'est soi-disant dans ma tête, parce que ma sœur dira que limite, on m'a aimé plus moi. Enfin, voilà, tout est... Qu'on aime plus son plus fragile enfant, par exemple.
C'est ce que j'allais te dire.
Non, c'est
d'abord,
souvent un perçu, perception.
Je dis que
perception.
Mes parents ont fait comme ils pouvaient.
Voilà. Dans ton livre, tu en parles?
J'en ai parlé dans un livre, ce qui a valu que ma mère ne comprenne absolument pas ce que je disais. Mais pourtant, c'est bien la réalité que je racontais.
Elle s'est sentie accusée.
Quand je te dis, bah ouais. quand je te dis qu'on fait comme on peut, c'est que je pense que ma mère a fait comme elle pouvait. Mon père aussi.
Mais de le reconnaître, c'est bien aussi. Quand moi, j'ai eu droit à ça parfois. Bah, c'est vrai, j'étais insouciante. J'ai pas fait comme il fallait, oui.
Bah, moi, j'ai pas eu ça.
Mais moi, je reproduis un petit peu des choses qui me font très peur. Parfois, parce que je sens à quel point il faut donner de l'amour et de la confiance et pas faire sentir son enfant comme une merde, comme tu dis. Mm-hmm. Parfois, même, il y a un petit mot, un petit quelque chose. T'as veillé à ça avec tes enfants.
Sauf que, voilà, non, mais s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas reproduit, c'est ça.
Bravo.
Et,
non, mais c'est fort.
Mais tu sais, en fait, quand tu grandis tout seul, quand tu te fais tout seul, quand tu bénéficies pas non plus de t'appeler... t'es pas le fils de Tartampion qui est dans le cinéma ou Tartampion qui est patron d'un groupe média.
Mais c'est un milieu quand même. Tes parents, c'est quoi? C'est quel genre de milieu?
Mes parents, c'était... Mon père était peintre en bâtiment.
Ah, ok. Non, parce que comme tu parlais du Cap Ferret pour la première club, je me dis peut-être les vacances sont cool.
Non, mais c'est parce qu'en fait, la sœur de ma mère s'est mariée avec un riche industriel de Bordeaux.
Non, mais c'est bien de savoir.
Et tous les étés, j'avais la chance... Jusqu'à un moment, à ce que je sois plus son genre, parce que j'avais un peu les cheveux hirsutes et que j'étais un peu, j'écoutais les Cures à l'époque,
et que
je fumais de l'herbe, et que mon oncle, par alliance, hein, enfin le mari de cette tante, a fini par ne plus vouloir me recevoir chez lui. Mais j'avais pris assez d'habitude et de relations au Cap Ferret, c'est pour ça que je me suis retrouvé chez des copains au Cap Ferret.
C'est comme ça que tu as rencontré Frédéric Becbédé?
Non, pas du tout, pas du tout. Je fréquente pas le même monde que Frédéric Becbédé. J'ai toujours eu une certaine aversion pour les milieux un peu
bourgeois.
Surfaits, bourgeois et comment on dit sophistiqués. Je déteste.
Et privilégié aussi.
Non, oui, je déteste le côté sophistiqué. Il m'a toujours renvoyé à quelque chose de faux.
C'est l'inverse de toi parce qu'en fait toi t'es brut. C'est l'inverse de sophistiqué.
Je suis doux moi.
Mais
au contraire.
Brute aussi.
Oui.
Mais tu es brute, pas une brute, mais...
Non, comme un diamant.
Comme un
brut.
Diamant.
Ouais.
Non, c'est vrai,
peut-être,
c'est vrai.
Ouais.
Mais en tout cas, depuis que je t'ai rencontré, à chaque fois que je parle de toi, j'emploie ce mot.
J'ai jamais, en fait, même si aujourd'hui je suis producteur et que j'ai un associé qui me dit « Mais tu devrais faire des dîners, tu devrais... » Je ne peux pas. Je peux pas. C'est quelque chose qui m'a toujours... voilà, je peux pas...
Bon, je crois qu'on perd rien. Moi, je te dis, voilà, j'ai toujours refusé.
Comme en fait, j'ai jamais aimé la cocaïne, c'est quelque chose qui m'a toujours angoissé. C'est-à-dire que le seul truc que j'aimais dans la cocaïne, c'est la première ligne, mais l'enfer commence à partir de la deuxième. C'est l'enfer. La cocaïne, c'est vraiment pour moi... j'ai toujours plaint les gens qui prenaient la cocaïne, parce que non seulement... Je les voyais démultiplier leurs bêtises et leur
égocentrisme.
Oui, puis leur inconscience que ça modifiait leur comportement à les rendre complètement...
C'est vrai, ça.
Non productifs et puis un peu cons. Parce que la cocaïne, ça fait jacter et dire des conneries. Comme les ivrognes, en fait. Donc, du coup, j'ai jamais trop été... dans les sauteries parisiennes. Donc, et j'ai jamais été quelqu'un. J'ai toujours gardé mes racines à Évreux, toujours eu les mêmes potes. Parce que comme tu le sais, en plus, quand tu deviens quelqu'un qui passe à la télé est un média surpuissant. Et quand tu passes
le
petit écran, eh bien, tu deviens quelqu'un de connu. Et quand tu deviens connu, tu le sais, Keren, tu connais ça. À qui faire confiance? Pourquoi on t'aime? Ça a été aussi quelque chose qui a été difficilement gérable quand j'ai continué à prendre de l'héroïne tard dans ma vie. Hein.
Alors attends, revenons juste là, c'est-à-dire que tu as ce mal-être profond qui est un manque d'amour. De toute façon, partout où il y a de la souffrance, il y a un manque d'amour.
Manque de confiance.
Mais qui vient d'un manque d'amour.
Oui, ouais.
Et après, tu découvres l'héroïne. Tu vis le moment, enfin, ce que tu as toujours eu envie de vivre, hein, c'est-à-dire quelque chose d'enveloppant et qui te rassure et qui te donne de la confiance, en fait, oui. Juste d'être bien là où tu es, en sécurité. Mmh. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe?
Ce qui est dingue, c'est que j'allais te dire, je t'écoutais, et que manque de confiance, manque d'amour, donc grande blessure, syndrome de l'imposteur à mort, et pourtant, à 15 ans, je suis à Évreux. Je suis le beau gosse que toutes les filles veulent attraper. À 18 ans, je fais mon premier groupe de rock. À 22, je suis signé chez Dansetaria et ensuite je signerai dans une major. J'ai une carrière musicale. Parallèlement à ça, je deviens le bras droit de Chavannes et en l'occurrence son meilleur pote. Je fais le tour du monde. Je rencontre les gens les plus puissants de ce pays déjà. Je démystifie beaucoup de choses, je défantasmagorise beaucoup de choses. Je rencontre Michel-Édouard Leclerc, je rencontre Bouygues, je rencontre Bernard Tapie, je rencontre tous les acteurs, je rencontre toutes les grandes mannequins. Je fais Coucou, c'est nous, je fais... tu vois, je suis professionnellement aux côtés de l'empereur de Chavannes. Donc du coup... Très bizarrement, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur qui m'a accompagné, mais avec une réussite et un succès tout le temps là, en fait. Mm-hmm. Mais tout en me disant que je ne le méritais pas.
Enfin, je vois tellement le point commun, parce que c'est tout, exactement tout ce qui m'est arrivé aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Mais en même temps, je ne pense pas que tu pensais de ne pas le mériter. Je pense qu'on est plus là à se dire... Je suis un branleur. C'est ça, l'imposteur. C'est pas genre, je le mérite pas du tout. C'est, franchement, je fous pas grand chose pour en être là. C'est voilà. Plus ça.
Bon. Mais ça en revient à dire.
Je le mérite pas, oui, parce que tu te dis qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup plus. Ouais. Moi, c'était même plus par rapport à ma mère, à me dire, mes parents travaillent comme des fous et ils gagnent juste ça. Et toi, t'es un gros branleur et tu fais n'importe quoi et tu arrives à grimper les. Et puis surtout à séduire. En fait, à plaire.
Ouais.
Que ça soit, je veux dire, au sexe opposé ou dans le métier ou dans les choses. Moi, j'ai connu ce truc-là, je vois et je me dis, mais pourquoi, je sais pas pourquoi ça m'arrive.
Bah, donc, voilà.
Et en fait, ça nourrit ça après. Le syndrome de l'imposteur, c'est là que justement, non seulement tu as du succès, mais en plus, tu penses que tu le mérites pas. Donc là, le mal-être, il grossit malgré toi.
Mmh. Et tu prends de l'héroïne.
Voilà.
Pour arrêter de penser à ça.
À quelle dose, en fait? À quelle quotidienneté? Ouf. C'est quoi? C'est tout le temps?
Non, pas tout le temps, parce que les gens ne connaissent pas l'héroïne. Mm-hmm. Mais l'héroïne, tu n'as pas besoin d'en consommer toutes les 5 minutes. Tu peux consommer le matin une ligne, elle te porte jusqu'à 14 heures, et à 14 heures, tu en refais une. Ça te porte jusqu'à 16, 17 heures.
Et pour que ça ne se voit pas, parce que moi, je vois, il y a ceux qui, d'un coup, on les voit, et ils ne sont plus capables de rien, juste ils planent. Oui. Et ceux qui ont une vie, ils prennent ça comment?
Alors moi, je peux te dire que, à part ma femme, qui est la femme de ma vie encore aujourd'hui, qui est l'amour de ma vie, que je n'ai jamais blousé, parce que tu es menteur comme un arracheur de dents, en plus, quand tu te drogues. Et ça, toute drogue confondue. Mais tu as toujours l'impression... Mais non, chérie, j'ai rien pris. Mais enfin, alors que moi, s'il y avait bien quelqu'un chez qui ça se voyait, avec mes yeux bleus, c'est très simple. Dès que je prenais l'héroïne, j'avais des épingles, des têtes d'épingles. Mes pupilles, il n'y avait plus de pupilles.
C'était Donc, que du bleu.
Donc, difficile de le cacher. Mais par contre, j'ai toujours... je pense que c'est ce qui m'a sauvé. J'ai toujours joué à 18 ans, j'étais un haut niveau de football.
Ah bon ?
Je prenais de l'héroïne quand même.
Wow.
Ça n'a pas duré très longtemps. Hein. J'ai ralenti le football, je pense, à partir de 21 ans. 22 ans, quand à 18 ans déjà, j'ai pas pris la carrière professionnelle que je pouvais prendre. Mm-hmm. En tout cas, que j'aurais pu essayer de prendre. Attention, il y a un club qui voulait me prendre en essai. Donc, je me rappelle que mon père, à l'époque, m'a dit « T'as envie de taper toute ta vie dans un ballon Tu sais que ça, tu peux devenir con. » Je me rappelle, il m'avait dit ça. « T'as envie de taper dans un ballon toute la journée? Tu sais que tu peux devenir con à taper tout un... » Il avait un peu raison.
La pâte... Voilà. Mais surtout,
en tout cas, bon, voilà.
Il paraît qu'à faire des têtes, apparemment, il y a un problème avec ça. Hein.
Mais ça, c'était pas le premier de mes problèmes.
Mais surtout que tu avais peut-être...
J'étais avançante, ceci dit. Je faisais beaucoup de têtes et je marquais
t'étais
beaucoup
HPI, de têtes. T'étais HPI, donc tu avais un peu à perdre.
Mais...
Tu avais de la marge.
Mais surtout, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai toujours fait attention à maintenir socialement une relation équilibrée dans tous les secteurs. Je me défonçais, mais pas comme un...
Junkie.
Voilà, exactement. Et pourtant, j'étais un petit junkie.
Mais il faut le dire, ça existe aussi, les gens qui ne font que se défoncer, c'est important. Je veux dire, c'est rare, les gens comme... Enfin, il n'y a pas des tonnes des gens qui arrivent à...
Je sais pas.
Mais si on sait qu'il y a des gens qui prennent de l'héroïne aujourd'hui dans des entreprises,
oui.
C'est fou.
Bah, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple aujourd'hui qui est très répandu. Il y a beaucoup de marins-pêcheurs...
Ouais.
Qui prennent de l'héroïne.
Et de la cocaïne aussi.
Et de la cocaïne, mais qui partent avec leurs 15-20 grammes
wow.
Pour le mois ou pour les 15 jours, parce que l'héroïne, comme la cocaïne, t'aide à ne pas dormir, t'aide à
ah bon
surmonter l'effort. C'est un moyen de se doper. Hein,
je ne savais pas non plus, tu vois.
Si.
Non, mais c'est bien. Je pensais que ça t'aidait à dormir, moi.
Alors, je te parle de bons produits. Hein. on parle de... Voilà, de
pur.
Non, mais de bons produits, en tout cas de la vraie.
Parce oui. que. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément ce qu'on consomme.
Je pense que les gens qui prennent de la cocaïne, notamment, un de mes potes urgentistes à Pau m'a dit que chaque année, il recevait 50 personnes en dessous de 30 ans qui avaient fait un AVC ou un problème cardiaque à cause de la cocaïne.
Tu rêvais de devenir reporter de guerre. Pourquoi ? Est-ce que c'est une forme, une confrontation à l'extrême déjà, que tu voulais vivre des moments forts ? Il y avait cette recherche d'adrénaline ?
Je pense, comme ça, avec du recul, t'as plus de facilité à analyser ce que t'allais chercher quand tu mûris, quand tu commences à pouvoir poser un regard sur ta vie et sur... le jeune adulte que j'étais.
Mm-hmm.
Je pense que l'héroïne n'est pas arrivée par hasard dans ma vie, comme je te l'ai dit, parce qu'il est venu combler un manque d'amour profond. Il est venu aussi combler un manque de confiance en moi. Et l'héroïne est devenue... Je me rappelle, c'est Florence Thomassin qui a été à l'époque ma fiancée. Pendant 5 ans, et qui a beaucoup souffert d'ailleurs de
ton addiction.
De mon addiction, parce qu'elle me disait, c'est pas avec moi que tu es, c'est avec l'héro.
On le dit souvent que l'héroïnomane est en couple avec l'héroïne.
Ouais, et puis en plus, parce que après, tu sais que sexuellement, l'héroïne te coupe toute envie. Parce que.
C'était Mano Solo qui en parlait très très bien. Hein. Il appelle sa femme.
Oui.
Et puis tu vois pas cette chanson, tu la veux au creux de ton bras. Non, oh, c'est pas possible, t'es passé à côté de ça. Mano Solo et au creux de ton bras, cette chanson.
Il est mort, Mano Solo.
Ouais, ouais, hein, sida.
De
hein,
ça. Hein,
sida.
Ouais. De ça, donc.
Ouais, de ça. Mm. Mais il raconte ce moment-là où il attend son sachet, qu'il attend le dealer.
Ah, oui.
Mais il parle d'elle comme une femme.
Mais.
C'est ta femme.
C'est pas ta femme, c'est. C'est ce qui t'accompagne, c'est compliqué de tu vois, je pense que pour ceux qui vont écouter, de penser qu'un produit peut remplacer
tout.
Un être humain qui est censé être ton épaule et dont tu peux être l'épaule, oui, ce produit remplace tout. En fait, je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as besoin
De rien.
Quand moi, j'ai consommé de l'héroïne à une époque où vraiment, elle arrivait d'Inde, elle arrivait d'Afghanistan, elle était bonne, très bonne, assez pure. Elle arrivait de Thaïlande aussi.
C'est quoi l'héroïne concrètement
comme l'héroïne, il y avait de la blanche.
Oui, mais et puis de la brune.
Et du brown.
Quoi c'est conçu comment?
Avec l'opium.
Avec l'opium. Donc, ouais. C'est naturel, c'est comme la cocaïne avec les feuilles de coca.
Voilà, exactement. Voilà.
On est sur des drogues, pas de synthèse, quoi.
Non, mais enfin, on est dans des drogues où il y a quand même du kérosène, il y a pas mal de saloperies pour arriver à cette poudre que tu te mets dans le nez.
Mais... Et toi, tu t'es pas piqué? Tu n'as fait que la sniffer?
Non, j'ai aussi, à un moment, utilisé...
Et ça, c'est quand? C'est quand ça devient pas assez fort ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Alors, tu vois, ça a été une période de ma vie qui correspondait avec le rock'n'roll. C'est-à-dire que toute la période avec mon groupe Les Black Maria, c'est venu par mon guitariste qui l'a fait. Et puis, voilà, comme il l'a fait, comme un couillon, je l'ai fait.
Et c'était mieux?
Bien sûr. Bien sûr que c'était... Ça passe directement, donc c'est ce qu'on appelle le... Ça a longtemps été un mot à la mode, le flash.
Ah ouais, le flash.
Voilà.
Mais le flash, ça c'est les gens...
Tu te rappelles de
mais d'ailleurs, dans le
Midnight
Chemsex,
Express, ouais. Toute cette époque.
Ils sont addicts au flash, ils le disent. Hein.
Uh-huh.
Et puis même sur la route... Enfin, il y a beaucoup de romans qui utilisent ce mot.
Ouais.
Donc du coup, pendant des années, tu passes déjà de l'héroïne en poudre sniffée à l'héroïne que tu te piques, que tu t'injectes.
Et ça a duré
tout en travaillant.
C'est vrai parce que ça a duré 4-5 ans, le fait de la shooter.
Ouais.
Et
là, tu travailles.
Mais je travaille avec de Chavannes.
Et personne ne le sait.
Je continue à faire du sport le week-end.
Personne ne le sait.
Mais mon entourage le sait.
Ouais, d'accord, les gens le savent.
Les potes de mon groupe le savent.
Et de Chavannes, par exemple.
De Chavannes le sait, ouais, bien sûr. Oui, il le sait, ouais. Je m'en cache pas. D'ailleurs, les problématiques qu'on a, c'est quand on part en voyage.
Ah ouais, comment tu vas en avoir?
Ah ben, j'en ai pas et je dors pas.
Il n'y a pas de Subutex encore? Il n'y a pas encore
non,
de...
Non. Il n'y a pas
mais encore de...
Mais je te raconterai en plus de ça... La longue bataille, parce que à partir de 25 ans, j'ai essayé d'arrêter. Et ça a duré 15 ans, parce que j'ai essayé d'arrêter tout seul.
Sans mais, traitement.
Mais on en parlera, tu vois, parce qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite. Je te raconterai ma longue bataille pour arrêter, et finalement, quand j'ai capitulé. Mais on en parlera tout à l'heure, si tu veux.
Tu emploies quand même des mots de narcotique anonyme. Sa capitulation, c'est l'étape numéro une.
Oui, mais j'ai capitulé en acceptant de prendre un substitut.
Mais il faut.
Mais par contre, je ne voulais pas. Je voulais arrêter tout seul, et qui est une grosse connerie.
Grosse connerie, ça c'est important.
Tu n'arrives jamais à arrêter n'importe quelle drogue. L'alcool, la cocaïne, l'héroïne, le MDMA, tu n'arrêtes pas seul. Tu
même
as
le
besoin
tabac,
d'être accompagné.
Même le tabac.
Et même le tabac, oui.
Et c'est pour ça, la cocaïne, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'il n'y a pas de substitut. Et l'alcool non plus. On est en train de trouver des médicaments, mais il n'y en a pas. On a la chance.
Avec l'héroïne, on a la chance de ça. Mais pour... Donc
15 ans, donc de 25 à 40 ans, tu essayes d'arrêter tout seul. Donc là, tu te retrouves dans des moments de grande détresse, de grande solitude, et surtout, j'imagine, de culpabilité
souffrance.
Aussi, de dire « j'y arrive pas ».
Non, mais de souffrance aussi, quand tu dors pas, quand tu dors que une heure la nuit, tu sais même pas quand tu dors, quand tu dors pas.
Parce que tu n'en prends pas,
ça,
tu t'infliges ça.
Parce que t'en prends pas.
Tu t'infliges ça, tu arrives.
Bah, tu t'infliges ça, tu es en train d'arrêter. Donc,
Et est-ce que des moments comme ça où tu n'en peux plus, au lieu de tenir bon, tu appelles un dealer parce que tu te dis, je peux pas?
Dans mon souvenir.
Tu tenais bon.
Dans mon souvenir, je passe des vacances en Asie avec ma famille où la peine de mort existe pour toute prise d'héroïne. Donc, je ne cherche même pas à m'en fournir ou à... Même quand on m'en propose, je refuse totalement d'avoir le moindre contact avec... j'ai peur. Donc, je passe... J'ai souvenir d'été comme ça où pendant trois semaines, je ne dors pratiquement pas.
Et ta femme ?
Ben, ma femme, elle est formidable. Elle m'aime. Elle sait que je souffre. Mais on en arrivera aussi à ça. J'ai arrêté grâce à elle. Parce qu'à un moment, elle m'a dit, je vais partir. Là, maintenant, on se pose.
Parce que là, tu as déjà des enfants.
Ouais. Je vais te raconter. Je te dis simplement que il y a cette période de musique, il y a cette période de télévision où, encore une fois, tout me sourit. Je suis en Ligue 1 avec mon groupe Les Black Maria. Je fais à peu près 70 concerts, 80 concerts sur chaque album. Ça va nous amener sur 4 albums à faire près de 500 concerts. Je fais tous les festivals avec des gens que tu connais, mais les Noirs Désirs, Bachung, La Mano Negra, FFF, et puis toute la scène indé, Dominique Sonic, Jade Villot, les Shérifs, Le Cri de la Mouche, toute cette scène française où il y a beaucoup de drogue, où on se retrouve tous, on se croise sur la route, dans les festivals. Voilà, c'est sexe, drogue and rock'n'roll. Et en plus,
c'est surtout ça, drogue, oui. Avant tout. Hein.
Alors moi, je prenais de la drogue après les concerts parce qu'en fait, l'héroïne en plus me portait sur les cordes vocales. Donc,
comme la cocaïne.
Je faisais ça après les concerts. Mais tout ça pour te dire qu'en plus, on est dans une sorte d'insouciance. Mais c'est grave parce qu'on en prend tous les jours. Donc je suis accro. Et du jour où ça m'a posé un problème, je n'ai cessé de faire des allers-retours entre essayer d'arrêter seul. J'allais aux Narcotiques Anonymes. Hein. J'y allais. Et puis, je tenais 7 jours, 8 jours, 10 jours. Et puis après, je rechutais. Je me refusais. Alors, pourquoi ? Parce qu'au début, les produits de substitution ayant été la méthadone, j'ai toujours refusé la méthadone parce que j'ai toujours considéré que la méthadone était une autre manière de s'accrocher très durement. Et je ne sais pas pourquoi. Bêtement, j'ai fait un parallèle avec le Subutex quand c'est arrivé. En tout cas, j'ai très longtemps refusé...
T'as fait un rejet du traitement.
Ouais, j'ai fait un rejet de tout ça.
Pourtant, mais tu voyais des gens autour de toi réussir à décrocher grâce à ça ?
J'ai eu deux potes qui ont décroché grâce à ça, à côté de moi.
Parce qu'il y en a plus qui sont morts, non ? Plutôt qui ont décroché.
Non, mais les morts sont plus morts du sida, moi, à l'époque. Hein. C'est pareil. Je veux dire, on a vécu une époque où... On a eu une chance...
On est en quelle année ? En 90 ?
On est en 92, 93. Mmh. Et voilà, la chance de passer à côté de ça aussi. Ouais. Donc, un peu miraculé, le garçon, quand même. Mais tout ça pour te dire que, en fait, au tout début, j'ai pris de l'héroïne parce que j'étais malheureux, parce que j'étais blessé. Et puis ensuite, elle est rentrée... comme on se disait tout à l'heure, comme celle qui m'accompagnait dans ma vie de tous les jours. J'étais capable d'assurer une vie sociale qui se tenait complètement.
Et amoureuse.
Je travaillais.
Et personnelle aussi.
Amoureuse aussi. J'ai toujours eu une femme à mes côtés et elles étaient toutes à chaque fois jolies. J'ai toujours aimé les femmes. Donc, j'ai toujours apprécié la présence des femmes, mais il se trouve qu'à un moment, elle devenait malheureuse à mes côtés parce qu'elle m'aimait et qu'une femme
qui ne fait pas l'amour
ne
aussi.
Peut pas être... parce qu'elle n'en prenait pas. Hein. Les femmes avec qui j'étais ne prenaient pas d'héroïne. Toutes. Elles n'ont jamais pris d'héroïne. Donc du coup, c'était un peu curieux même comme montage, tu vois. Être avec un mec qui est un junkie, je dirais, un notable junkie.
Ouais. Mais j'ose pas visualiser le truc de toi avec une vie, une femme, des enfants, et t'imaginer, toi, je me mets à la place de ta femme.
Je me shootais plus. Je t'ai dit tout à l'heure...
Ça a duré 5 ans.
Ça a duré 5 ans.
Après, c'était sniffé.
Le temps de... Je crois que ça a duré 5 ans jusqu'au jour où mon guitariste est tombé très malade. Et c'est là où on a arrêté ça.
Wow. Mais malade de quoi ?
Il a eu une grave hépatite.
Tu vois qui c'est, François Créton ?
Oui.
Qu'on a invité...
Qui lui aussi a pris ça ?
Ah oui, oui. Et puis là, il a eu toutes les hépatites. Il souffre encore aujourd'hui de plein de choses, hein, mais...
D'accord.
Sacré mec, oh, mais
alors, j'ai eu une chance de passer à côté de tout ça.
Et le plus difficile pour lui a été d'arrêter la substitution.
D'accord. Il a arrêté il y a combien de temps, la substitution?
Bah, il a d'abord été aux alcooliques anonymes, il a arrêté de boire 20 ans. Après, il a arrêté... Bah, là, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'il a arrêté la substitution, ouais.
On va revenir sur la substitution, parce que c'est important d'en parler aussi aujourd'hui. Mais finalement, c'est qu'un détail de shooter, tu sais, parce que, voilà, ça encore, je n'en ai jamais parlé, parce que imagine toutes les dames qui... trouve aujourd'hui que je suis
Elles vont encore plus fantasmer sur toi.
Non, mais je pense que certaines vont, à l'écoute de ce podcast, se dire « Oh, quand même !» Mais peu importe, c'est pas important, parce que l'homme que je suis aujourd'hui...
On se doute bien en te regardant que t'en as traversé des épreuves et que c'est ça qui te rend aussi charismatique aussi, oui, c'est ça qui attire les gens.
Surtout, ce shooter n'est qu'un détail et une anecdote. C'est anecdotique.
C'est vrai.
C'est sûr que ça impressionne les gens.
La seringue impressionne les gens,
mais bon, dans les hôpitaux, juste on ne soigne qu'avec ça, quoi.
C'est vrai.
Donc, je veux dire, une seringue, ça reste une seringue, ça fait rentrer un produit pour te soigner, et là, il était pour te donner du plaisir, tout simplement. Ça n'a rien de sale, ça n'a rien de... D'autant plus que...
Non, mais l'imagerie, elle est pour beaucoup dans les films, en fait.
Mais tu sais, longtemps, je n'ai pas parlé de mon passé, parce que je sentais que l'héroïne avait une sale image.
Pas bonne presse, hein. C'est-à-dire elle n'a pas trop bonne presse.
Oui, mais c'est très curieux.
Alors
parce que
cocaïne, on est content de voir des gens à quatre dents d'un chiotte sur une cuvette, ça dérange personne.
Bah, un peu.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que alors qu'avec une seringue c'est comme si propre. L'héroïne avait été longtemps la drogue des sales et des pauvres et des clochards.
Parce qu'il y a le crack aussi, on mélange aussi beaucoup
de
choses.
C'est de la cocaïne.
La cocaïne basée.
C'est pas du tout.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la drogue qui est considéré, comme tu dis là maintenant, sale, c'est le crack, j'ai l'impression.
Bon, mais il faut quand même remettre une vérité ici, là, maintenant. C'est que quand même, les gens ne savent pas que tous les grandes stars, les grands réalisateurs qu'ils ont adorés, les grands écrivains, hein, dont certains sont venus chez toi, sont des craqueurs aussi, puisqu'ils... ils font ce que les craqueurs de la Porte de la Chapelle font. Ils savent très bien fabriquer du crack.
Ils basent de la cocaïne.
Et tu le sais bien aussi, toi aussi. Tu sais bien que baser de la cocaïne...
Alors moi, non. Alors pas du tout, je ne l'ai jamais vu faire.
Eh ben, écoute, moi...
J'ai quelqu'un très proche là, en Narcotique Anonyme qui me raconte...
Ils savent très bien le faire.
Mais même les dégâts... Mais par contre, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à arrêter parce qu'ils te disent « J'aime trop... Le crack, c'est trop bon. » Et là, tu vois, toute la journée, elle passe en une seconde, elle me dit, j'ai rien fait d'autre, en fait.
Pourquoi veux-tu que...
Elle a pas envie d'arrêter, elle a rien fait d'autre que faire ça.
Oui, sauf que ça va la tuer, mais bon.
Bah, elle le sait bien, mais c'est complètement fou.
Bon, mais en tout cas, pour en revenir...
Bon, ta femme, elle te dit qu'elle va partir.
Alors, parce que on parle dans tous les sens.
Qu'est-ce que tu fais?
Ce que je voulais te dire,
simplement... Mais sache que moi, je suis pas dans les jus d'olive, et moi, ça part dans tous les sens.
Eh ben, c'est cool. Pour une fois que je parle,
toi,
moi,
c'est
en plus.
Hyper... Non, mais toi, c'est vraiment... Mais puis, bon, t'as une équipe, tout est oui, bien... Oui. Hein, c'est tight. Moi, ici, on est en freestyle avec
Marjorie. D'accord, c'est super, j'adore. Mais tout ça pour te dire que, longtemps, l'héroïne a été quelque chose, tu vois, dont je ne voulais pas parler.
Ben oui.
Parce que, d'abord, parce que longtemps, tu remarqueras que les milieux protégés, hein, politiques... la chanson, le cinéma, les écrivains, les sportifs, tout ça, mais il n'y avait pas de drogue.
Bien sûr que non.
Comme il n'y avait pas de gays dans le rugby et le football, il y avait des choses, ces milieux étaient immunisés de certaines choses horribles. Sauf qu'aujourd'hui...
On sait.
On sait que... Oui, dans le rugby, on prend de la cocaïne.
Chez les politiques,
on prend beaucoup de cocaïne. Oui, il y a des homosexuels dans tous les secteurs. Et c'est... Voilà, il n'y a rien de grave.
Non, il n'y a rien de nouveau sur Terre,
non,
en tout
non,
cas.
Non, ce que je veux dire, que ce qui est nouveau, c'est qu'enfin, on se rend compte que...
Bien sûr.
l'héroïne, la cocaïne, l'alcool ou quoi, il n'y a pas de drogue plus sale qu'une autre.
Non, mais l'intérêt n'est pas d'en parler, de dire c'est génial parce qu'on peut en parler aujourd'hui. L'intérêt, il est que c'est génial qu'on puisse en parler parce que si tu n'en parles pas, tu n'en sors pas.
Et surtout, l'intérêt, Karen, l'intérêt, c'est de juste dire que ça existe et d'expliquer pourquoi tu tombes dans une addiction. Et si je suis là, c'est pour expliquer que
et comment on peut en sortir.
Et surtout, aussi à tous les jeunes qui vont écouter ce podcast, j'ai qu'une phrase à leur dire. Je ne vais pas les baratiner pendant des heures. Écoutez-moi bien, si vous avez 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, que vous en ayez même 40, 60, si vous voulez gagner un paquet de temps et un paquet d'énergie, mais ne touchez pas à une seule ligne de coke ou d'héro, ne touchez pas à ça, pas une seule fois, et vous allez gagner un putain de temps sur votre vie, et la vie sans ça, oh, Dios, qu'est-ce qu'elle peut vous réserver, mais une multitude de surprises. Il y a des gens qui
il y a autre chose
sont
à faire
pas
que
aimés.
Il y a autre chose à
là,
faire que se droguer.
Au moment où ils vont entendre ces mots, ils vont se dire « Mais merde, moi aussi je suis blessé. Merde, moi aussi je suis seul. Moi aussi j'en chie. » Moi, la solution, elle est surtout pas là.
Et elle est surtout à l'intérieur. La lumière, elle est là.
Exactement, elle est à l'intérieur. Et elle est aussi...
vers
elle
l'autre.
Est aussi chez les autres. Ouais. Les mains tendues. Mais en tout cas...
Mais je pense que toi et moi, on s'est guéris aussi en allant parler aux autres, moi en chanson ou ici dans ce podcast, mais en me liant, en me connectant aux autres, en donnant la voix à des mots M-A-U-X que les gens n'arrivaient pas à sortir d'eux. Et je
moi,
pense qu'on a l'impression...
C'est grâce au narcotique anonyme que je m'en suis sorti.
Ah voilà, alors allons-y.
Non, mais c'est grâce au narcotique
anonyme. Mais moi aussi, mais allons-y.
Ça a été le début de quelque chose, le narcotique anonyme.
Pareil.
C'est-à-dire que j'y suis allé en réunion et combien de fois j'ai rechuté. Mais au fur et à mesure, je pense, tu vois, que le message des narcotiques anonymes, c'est pareil. Il faut une certaine maturité, il faut... je pense que tu l'assimiles progressivement. Donc, j'y ai puisé les choses que j'avais à épuiser, les méthodes aussi que j'avais épuisées. Je pense que mon refus aussi de prendre des substitutions a été un des côtés néfastes des narcotiques anonymes.
Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus modérés là-dessus. Ouais.
Bon, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Parce que j'en ai plus.
Aujourd'hui,
on sait
qu'on peut vivre avec la substitution et il y en a plein qui se disent je suis clean à la manière Anna, mais je suis en train de baisser mon traitement de substitution.
D'accord. Ouais, tu vois, ça c'est plutôt, je ne le savais pas parce que ça fait une.
Après, tu peux tomber sur un parrain qui est plus dur, par exemple.
Bah, mon parrain, il est de la vieille école.
Ouais.
Et il refuse ça. Et je trouve que c'est bah, je suis pas d'accord avec lui. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, pour revenir sur ce combat que j'ai pu mener contre ça, c'est que j'ai longtemps été dans ce syndrome de l'imposteur. J'ai longtemps manqué de confiance en moi. J'ai longtemps pensé que j'étais pas à la place que je méritais. Mais tout ça, tu sais, je crois que ça vient du fait de pas avoir été aimé par mes parents. Et je pense que c'est méga important quand tes parents t'aiment,
te portent.
Je pense que ça, ça te donne une base très très solide qui va t'empêcher, en tout cas, qui va t'éloigner. Des possibilités de tomber dans une addiction. Moi, j'ai longtemps trimballé ce truc d'être seul. Même quand j'avais une fiancée, j'étais seul.
Du coup, ça fait vachement sens, en fait, quand tu me dis l'héroïne te permet d'être bien seul.
Ben ouais, parce
donc, en fait, t'as été seul, mais malheureux seul. Et là, d'un coup, t'étais seul, mais bien.
Et puis aussi, j'en reviens à ce que je t'ai dit. Bon, je sais que mes potes vont écouter ce podcast, mais ils le savent parce qu'ils m'ont déjà vu disparaître. Ils m'ont vu des dizaines et des dizaines de fois disparaître. Mais il est où, Liv ? Et je me tirais parce que je m'ennuyais. Même avec mes amis, je m'ennuyais. C'est-à-dire que... Je sais pas, c'est...
Je comprends parfaitement.
Bon, voilà. Je m'ennuyais. Je trouvais que je perdais mon temps, que j'écoutais des choses qui ne m'apprenaient rien. Je me faisais chier. Donc, du coup, je disparaissais sans dire au revoir, sans... Je m'éclipsais, quoi. C'était comme un... Tu sais, un truc où... je peux plus, quoi. Et moi, toujours en m'arrangeant de m'éclipser sans qu'on ne le remarque.
Voilà.
C'est-à-dire...
Pas qu'on te pose des questions et qu'on te force à rester,
voilà,
surtout.
Exactement.
Mais non,
mais
reste.
Pourquoi tu t'en vas maintenant?
L'enfer.
Tu vois, j'ai eu du mal à l'école.
Ouais.
Parce que les règles de l'école me paraissaient complètement cons. Beaucoup de choses qu'on essayait de nous apprendre, j'ai vite saisi que ça ne me servira à rien pour le reste de ma vie. Je me suis très vite ennuyé à l'école, donc j'étais un enfant plutôt turbulent, qui faisait des conneries. Je suis arrivé péniblement jusqu'au bac en étant viré d'une bonne quinzaine d'écoles privées catholiques parce que mes parents me foutaient que dans le privé. J'ai été diagnostiqué à 20 ans, en fait. Ce qui m'a quand même permis...
C'est un test de QI, tout simple.
J'ai été diagnostiqué parce que je me suis... à un moment, on s'est dit... mes parents se sont dit, il a quelque chose qui ne va pas.
Mais c'est important qu'on le sache. Est-ce que ça peut ressembler justement à l'inverse d'un HPI? C'est-à-dire le gamin, il est inadapté.
Je pense qu'ils étaient bien loin de penser que j'étais HPI.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Parce que HPI, c'est pas être le premier de la classe ou parce que c'était bien loin de ça. J'avais des soucis même en classe, quoi. En fait, j'étais seul, donc je branlais rien. Je m'arrangeais toujours pour avoir 12, 13 de moyenne.
Ah, quand même.
Donc oui, mais je foutais rien. C'était facile pour moi d'avoir la moyenne et d'être qu'on me foute la paix. Mais c'était plus que moi j'avais plus de problèmes avec la discipline, avec voilà. Et donc à 20 ans, quand ce diagnostic-là est tombé, il a permis d'expliquer beaucoup de choses. Il m'a permis de comprendre un peu plus ma solitude. J'en ai jamais parlé de ça, parce que en plus de ça, dans mon syndrome de l'imposteur, je me suis dit que ça allait paraître pompeux de dire...
Ça allait attiser,
je suis haut potentiel. Ça a un côté, tu vois, pour moi, même le terme haut potentiel, je me suis dit, oula, ça va pas me rendre service.
C'est haut potentiel intellectuel.
J'ai bien eu raison. Hein.
Oui, ça plaît pas aux gens.
Parce qu'avec l'arrivée d'Internet, je sais pas si t'as vu... Comment même il y a plein de gens qui se déclarent HPI alors que tu vois qu'ils sont cons comme des bites et qu'ils n'ont jamais été HPI de ma vie. Ils sont HPI comme moi, je suis le pape, tu vois.
Moi, j'ai été diagnostiquée de TDAH. Franchement, j'ai refusé la Ritaline. Je n'en parle jamais parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde l'est. Et en revanche, ça fait du sens pour moi à plein de moments de ma vie, tu vois. Et surtout,
l'important, c'est que ça fasse du sens pour
toi.
Voilà,
c'est ça. Tu parles de ce qui t'a sauvé, les narcotiques anonymes, et j'aime beaucoup la façon dont t'en parles, c'est-à-dire tu dis que c'est quelque chose qui est long à intégrer, donc moi, je trouve que c'est fabuleux de continuer à y aller, mais même sur 20 ans, 30 ans, même, je comprends que les gens ont arrêté, continuent d'y aller, parce qu'il y a quelque chose qui s'intègre, et surtout il y a un truc spirituel qui te fait passer un gap, tu n'es plus en train d'être juste le drogué, voilà, t'es plus seul.
C'est plus tout seul.
Il y a tes proches quand même, est-ce que tes amis, ta femme, est-ce que ça
juste
a été un soutien?
Je veux rajouter un truc sur Anna, si tu me permets. Juste la promesse que lorsque tu vas arrêter de te défoncer, ta vie va devenir meilleure. Juste, moi, quand j'ai arrêté de me défoncer, mais ça a eu un effet mais incroyable.
Ah ouais.
C'est-à-dire que plein de choses se sont réalisées. Donc je me suis dit, mais putain, mais...
Tu veux dire qu'avant, ça restait embryonnaire,
ça... Alors qu'à partir du moment où j'ai arrêté de consommer, les choses se sont éclairées. Et
comment tu l'expliques, ça? Est-ce que c'est vraiment la conso qu'on arrête? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand
que
ça?
Mais non, mais c'est tout simple. C'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de consommer, t'es plus structuré.
T'es disponible aussi à autre chose.
Mais voilà, donc t'es disponible, t'es plus structuré, t'es plus organisé, et tu vas droit au but. Alors que quand tu te défonces, tu mets 15 000 projets en route, On te rappelle après parce qu'on te dit c'est super, tu te rappelles pendant 15 jours tu m'as appelé en me parlant de ce truc là, c'est génial, si je m'en souvenais, sauf que je me disais merde comment je vais faire,
parce que je suis incapable de le faire,
moi ça me rendait hystérique de consommer, c'est à dire que quand je consommais je pouvais, je te dis, lancer 10 projets, voilà, c'était déstructuré en fait. C'est-à-dire que la drogue me déstructurait. Et la drogue déstructure. Toute drogue déstructure. Et quand je parle de drogue, l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, le MDMA...
Ce qu'on dit dans NA, c'est que ça modifie le comportement. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que la cigarette, c'est une drogue et qui fait mourir. Mais on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Parce qu'elle ne ruine pas la vie. En tout cas, on ne parle pas de santé. Quoi. Là, ça ruine vraiment la vie, les projets, mais même... personnel avec un enfant, très dur aussi de faire confiance à un parent qui consomme, parce que moi je me suis vue m'enflammer parfois avec mon fils, dire on va partir à New York et tout, et puis et il me disait mais alors New York, ouais mais non en fait j'ai pas les moyens. Moi quand je revoyais le truc vu d'en haut, et Narcotique Anonyme te donne cette possibilité de regarder le truc vu d'en haut, et là tu vois ce truc, tu dis non.
Ça me fait penser à un truc qui m'a fait vachement de peine. J'avais arrêté, hein. J'étais clean depuis 3-4 ans, je crois. 3-4 ans, à peu près. Et ma fille nous a raconté un de ses rêves à sa mère et à moi. Et elle m'a dit, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais poursuivi par un monstre. Et j'avais peur, papa. Et toi, t'étais accroché au lustre. Tu me regardais avec tes yeux vides et tu faisais rien pour m'aider.
Oh.
Et tu vois, en fait, je sais que ce rêve, il correspondait au moment où je me défonçais. Et où, en fait, en plus, quand tu te défonces, tu crois que personne ne voit, que tu blouses tout le monde. Alors que, je veux dire, ceux qui, eux, sont clairs et sains d'esprit, le voient.
Ils voient bien qu'il y a un truc qui va pas.
Ils le sentent. Et même les enfants le sentent. Mmh. Et ils sentent que papa, il n'est pas...
Il n'est pas là, en fait.
Il est là, mais il n'est pas là. Mmh. Tu vois. Donc, et pourtant, je m'occupais à fond de ma fille. Mais
c'est dangereux aussi.
Elle sentait que j'étais dans mes pensées parfois. Mmh. Et encore une fois, je le répète pour que tout le monde le sache bien, j'ai toujours su donner le change. J'ai toujours assuré une relation sociale structurée en tout cas. Il y a jamais eu de foutoir ou de choses graves qui se sont passées parce que j'avais pris de la drogue.
C'est une chance aussi.
Mais
c'est vrai que c'est miraculé, toi.
J'étais un junkie
propre.
Propre, voilà, exactement.
Et en fait, quand t'as commencé à arrêter,
qui me faisait énormément souffrir.
Oui, bah oui, parce que t'as la conscience que t'es junkie.
Ça me renvoyait une image de moi horrible.
C'est ça, t'as la conscience.
Non, mais quand le nombre de fois où tu te regardes dans la glace et tu dis que t'es
dégoûte,
merde,
dégoûte.
Parce que tu te drogues.
Mais ça, c'est bien de le savoir aussi. C'est pas vrai.
À ta fille.
Mais c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai.
On croit ça, mais aujourd'hui, je sais. Moi, aujourd'hui, je sais. D'ailleurs, même quand je parle de rechute, je n'ai plus du tout cette vision-là. Je me dis pas, t'es qu'une merde. Pas une seconde. Je me dis, qu'est-ce que ça vient m'apprendre là maintenant?
Ouais.
Et surtout maintenant, vu que on a cette vision, tu sais, plus spirituelle, qui est de se dire, c'est une épreuve comme une autre, la rechute ou autre chose, et tu te dis, il faut que je fasse avec. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'était je suis le drame, je suis une merde, et puis c'est tout. Là, aujourd'hui, c'est OK, donc je vais gérer ça comment.
Quand je te parle du passé, là.
Ouais, bien sûr.
Au moment où j'étais un junkie.
Mais c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu arrêtes, où tu réussis grâce à NA, TSO, le traitement de substitution, ou pas du tout?
Non, j'ai pas. Il n'y a pas que NA. Hein,
pour ça que je veux savoir quels étaient.
Il y a. Alors, on va parler de l'arrêt
maintenant. Il y a un parrain.
On va parler de l'arrêt maintenant.
À quel âge?
À 45 ans. Ça fait 15 ans que je suis clean.
Wow.
Maintenant.
Bravo.
Merci.
Bah ouais.
Merci.
M'étonnes.
Mais quelle souffrance. Quelle souffrance. C'est presque 25 ans de consommation d'héroïne. Quelle souffrance. Et même si j'ai construit beaucoup de choses durant ces 25 ans, c'est juste parce que Dieu m'a donné une nature. Je suis fort comme un roc. Je le vois aujourd'hui. Je supporte des choses aujourd'hui. La vie m'a imposé des choses, des épreuves qui font que je sais que j'ai la chance d'avoir une constitution forte.
J'ai découvert dans une interview que tu donnais pour Paris Première, je crois,
oui,
une épreuve que tu as traversée dont je n'étais pas au courant.
Mm-hmm.
Je n'ai pas l'idée de quand ça s'est produit.
Est-ce que j'ai perdu mon père.
Tu étais déjà clean.
J'ai perdu mon père qui s'est mis une balle dans la tête.
Mais pas que ton père.
Et un an après, j'ai perdu mon fils. Donc, comme je... Et je me défonçais à l'époque, en plus. Donc, pour tout ça, pour te dire que... il m'est arrivé à cette époque de me dire que j'étais une merde.
Et, jamais tu t'es dit finissons-en.
Si au moment où j'ai perdu mon fils, je me suis posé la question.
Qui était tout petit, hein,
mais
c'est
qui était lié à plus partir avec lui pour le protéger dans le noir, quoi. Voilà, c'était vraiment symboliquement ça. Ça m'a fait en plus, à l'époque, je me souviens, replonger bien dur dans la conso quand j'ai perdu Théo. Parce que là, je me disais...
Il avait quelques mois.
Il avait 2 mois. Et, et là, je me suis dit que c'était quelque part Dieu qui j'étais dans un délire mystique et que la drogue démultipliait sans doute. Et puis le fait de te dire que t'es qu'une merde parce que tu t'as pas la force de vivre sans ça, t'as besoin de ça, t'es qu'une merde. Voilà. Voilà le type d'exemple où t'entretiens ce truc, cette image de toi. Et puis 4 ans après est venu Tess, l'amour, le deuxième amour de ma vie, le premier amour de ma vie parce que c'est ma fille avec ma femme Valérie. Ce sont les 2 amours de ma vie et c'est elles qui m'ont sauvé, en fait. En fait, parce que j'ai arrêté, alors que je t'ai expliqué avoir combattu seul ça, avec les NA, mais quand tu sors de réu, après, t'es tout seul. Et tu peux pas arrêter tout seul. Et ça faisait 6 ans, grâce à NA, que j'allais à l'hôpital Marmottan. 6 ou 7 ans, et que je voyais un psychiatre, un addictologue, qui est toujours à mes côtés aujourd'hui, que je vois toujours aujourd'hui, tous les mois, et qui prend toujours le même temps qu'il prend avec les autres, hein, parce que c'est pas parce que je m'appelle Olivier Delacroix que je suis connu qu'il ne favorise quoi que ce soit. Je suis comme les autres. C'est
de
ce
la
que je trouve
croix,
formidable.
Je me pensais... Non mais vu la croix, vu le parcours, est-ce qu'on t'a envoyé? C'est quand même pas rien, de la croix. Hein.
Peut-être que c'était un nom prédestiné, ouais, je ne sais pas.
Et Black Maria, enfin, il y a beaucoup de...
Ouais.
Il y a beaucoup de...
Ouais.
Il y a beaucoup de liens.
Mais Dieu est très présent dans ma vie, de toute façon. Mais...
Je rassure, hein, il est très présent dans la vie de tout le monde. Hein.
Ouais, bah tant mieux.
Enfin, en tout cas, toi, tu le sais.
Mais en tout cas... les discussions que j'avais avec mon médecin, je dis pas son nom parce que je sais qu'il aimerait pas que je dise son nom, mais en fait il m'a sauvé la vie, lui, avec ma femme. Quand ma femme en fait m'a dit je vais te quitter, j'en peux plus de tes conneries, j'en peux plus de tes mensonges, j'en peux plus de te voir te détruire, j'en peux plus que tu me mentes, parce que c'était des petits mensonges, hein, mais elle voyait que je rentrais, que j'étais défoncé, et elle me disait, mais tu t'es défoncé encore? Et je disais, mais je te jure que non, chérie, je te jure, je jurais. Tu vois, quand toi t'es clean, ma femme, elle me voit, elle voit son homme devant elle, lui dire, alors qu'il a les yeux explosés, mais chérie, je te jure que, tu vois, et à un moment, elle a dit, je t'aime, parce qu'elle m'aime d'amour, cette femme, comme je l'aime d'amour, encore aujourd'hui, mais elle m'a sauvé le jour où elle m'a dit «
Je te quitte. »
Je te quitte, voilà. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne prends pas une décision là, mais là, maintenant, dans les jours qui viennent, Et donc, j'ai décidé de capituler à ma manière. Parce qu'à l'époque, Enna refusait l'histoire des substitutions.
Alors, je ne pense pas qu'il refuse, mais je pense qu'il
tu as
le droit de passer par là, mais ce n'est pas être clean.
Ouais. En tout
cas,
moi,
pas interdit, pas du tout.
Moi, je me souviens d'un discours ayatollesque à l'époque.
C'est étrange, parce que quand même, c'est très, tout le monde le prend. Hein.
Peut-être que je l'ai transformé comme ça dans ma tête.
Je pense que c'est juste qu'on te dit « Ah oui, oui, tu vas le prendre, mais tu n'es pas clean ». Alors que l'héroïnomane, tout ce qu'il veut, c'est juste qu'on lui dise bravo, t'as arrêté l'héroïne, tu vois, et c'est pas cool.
Mais j'avais pas cette impression.
Je comprends. Mais peut-être c'était encore une autre époque.
Écoute, ma vie a changé du jour où je suis allé voir mon médecin. Je fais gaffe de pas dire son prénom parce que c'est tellement mon... Il m'a tellement sauvé la vie, lui. C'est fou parce qu'il habite mon quartier, en plus. Et que je le croise régulièrement avec son vélo. Je le trouve beau.
Moi, tu m'as donné son numéro, donc en plus, je vais l'appeler.
Mais voilà.
Et donc, il t'a donné ce traitement ?
Il m'a... Ça faisait longtemps qu'il me disait de prendre ça. Il me disait, mais pourquoi tu refuses ? Pourquoi ? Et je lui disais, bah, parce que c'est pareil. Je vais remplacer une drogue par une autre drogue.
Je pense que tu ne voulais pas arrêter.
Oui, non, mais
fait,
j'étais buté.
Aussi.
Mais en fait, voilà, je ne voulais pas.
Au-delà.
Voilà. Et puis, tu sais aussi...
T'as trop peur que ça marche, en fait.
Oui, et puis aussi, j'ai oublié de te dire un truc hyper important. Ah. C'est que... quelque part, de moi à moi, je m'étais installé dans ce personnage de poète maudit. J'écrivais, je créais, je devenais connu. Donc, je me disais quelque part, mais finalement...
Ça marche.
Tu vois, je suis ce que je suis, mais j'y arrive. Tout ça, c'était des conneries, en fait.
Je connais par cœur, je suis parfois encore là-dedans.
Oui.
Tu vois ?
Je comprends.
De me dire, mais finalement... Rappelle-toi, t'as écrit cette chanson-là que tout le monde a adorée, tu l'as écrite, t'étais défoncé.
Ouais.
Donc ça marche.
Sauf que non.
Mais c'est des conneries qu'on se raconte. Hein.
Exactement. Parce que du jour où je suis devenu clean, parce que prendre du Subutex, c'est devenu... Je suis devenu clean. C'est-à-dire que le Subutex, j'ai envie de te dire, c'est fou. Hein. J'ai consommé 25 ans de ma vie, mais en 3 jours, ça a été réglé. C'est-à-dire que je crois même ne pas avoir souvenir d'avoir souffert, et en plus à une dose très très moyenne, je crois que c'était de l'ordre de 4 milligrammes, qui m'ont fait basculer dans la non-consommation. Et à partir de là, je me rappelle que les conseils que mon addictologue m'a donnés, c'est d'éviter de passer par les endroits, même en moto, où j'avais acheté ou consommé. Il m'a dit, le seul truc qui va te paraître un peu curieux, c'est que le rituel dans la consommation est très important. Et le rituel, tu sais, c'est l'idée d'abord qui germe que tu vas consommer. L'idée que tu vas aller tirer de l'argent pour, l'idée que tu vas faire le chemin pour aller chez le dealer, l'idée qu'il va te faire attendre, l'idée qu'il va te parler comme à une merde, parce que tous les dealers finissent par te parler comme à une merde, parce qu'ils ont une espèce de surpuissance par rapport à toi, le junkie, qui dépend d'eux, quelque part, tu vois. Et donc, tout ça, tous ces rituels-là, t'ouvrent des capteurs dans ton cerveau, en fait. Et le produit de substitution, que ça soit du Subutex ou la méthadone, je crois avoir compris dès le début que ça annihilait pas tout de suite ça. Et que le danger, c'était...
le rituel.
Les rituels. Mmh. Et donc, dans le rituel, il y a aussi les gens qui, autour de toi, consomment. Donc...
C'est là où Enna rentre en jeu aussi, c'est qu'il faut changer le mode de vie aussi.
Oui, et puis ne plus voir que des gens qui ne consomment plus. Mmh. Alors maintenant,
ça fait
15 ans...
Je veux juste savoir ce que ça fait le Subutex, c'est-à-dire, on a envie de comprendre, est-ce que, comme on dit que c'est substitution,
je suis un vrai pro.
Ça ne te fait pas l'effet de la défonce.
Ça ne te fait aucun effet.
Voilà, c'est comme si ça annulait tout, en fait.
En fait, c'est très simple, je vais t'expliquer comme mon psy m'a expliqué. Quand il m'a dit, tu vas voir ce que ça va te faire. En fait, on a des capteurs dans notre cerveau pour les rituels, mais on a aussi des capteurs d'envie de consommation. Tu as ouvert ces capteurs le jour où tu as fait ta première ligne, l'opiacé. L'idée de l'opiacé, plim, ça s'ouvre. C'est comme des petits, tu sais, comme la NSA, là.
Ah ouais.
Tu sais, qui écoute le monde entier. Bah, ton cerveau, il écoute tout ce qui est relié à l'opiacé. Tu vois, il a ses petites antennes, là. Et donc, du coup, la prise de Subutex ferme ces capteurs-là. Ils ne peuvent pas s'ouvrir. Ils les immobilisent, en fait. Donc, déjà, truc énorme, ce produit-là te coupe l'envie de consommer. Après, toi, tu as un travail à faire qui n'est pas des moindres, c'est de couper toute liaison avec des gens qui consomment.
Puis le job qu'on a à faire, c'est d'aller bien aussi.
Je vais te dire, il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui consommaient de l'héroïne.
C'est une chance.
C'était beaucoup dans le milieu de la musique et j'en faisais plus au moment où j'arrête. J'en faisais, mais avec mon pote Claudio, avec Dominique Sonic. Et on ne consomme pas. Il n'y a pas de consommation de drogue chez ces gens-là. Donc, du coup, on n'est pas tenté.
Est-ce que tu as réussi à refaire de la musique sans consommer?
Ouais.
Ouais.
Ah ben ouais.
Avec plaisir.
Mais bien sûr, j'ai pris... du plaisir à faire tout un tas de choses sans consommer. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc-là, voilà, que je prenais le matin, que je mettais sous ma langue, et qui...
Tu t'es senti comment,
auquel je pensais plus.
Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est un effet libératoire? C'est comme... c'est une jouissance, en fait, de se dire je ne ressens plus le besoin d'y aller.
Non, c'est pas une jouissance, c'est un plaisir.
Un plaisir.
C'est un plaisir de ne plus penser aux dealers.
Ouais.
C'est un plaisir de ne plus penser à ça. Petit à petit, ta vie se transforme parce que tu apprends à vivre sans un truc qui modifie ton comportement. Donc, t'apprends à vivre sans ça. Mais ça change plein de choses.
En fait, t'as du temps pour autre chose.
C'est ma femme qui pourrait le mieux t'en parler. Elle a vu, je suppose, son homme devenir... d'abord, être là. Et puis, son homme s'excuser auprès d'elle, auprès de, comme on te dit, Aïna. Ça, je pense que c'est une chose importante de...
Faire amende honorable auprès
Faire amende honorable des auprès des personnes auxquelles t'as menti, auxquelles t'as pu... J'ai pas fait beaucoup de mal parce que je suis un gentil, donc j'ai toujours été honnête, j'ai jamais volé, j'avais la chance de gagner ma vie, donc j'ai jamais fait de saloperie à qui que ce soit pour obtenir de l'argent, voilà, il y a même pas un dealer qui peut dire que je dois de la thune. Mais j'ai fait amende honorable auprès des gens à qui j'ai pu.
Avec ta femme, vous avez surmonté 25 ans de consommation, la perte d'un enfant. Et c'est après tout ça que vous vous séparez, en fait?
Mais on n'est pas séparés.
Ouais, en fait, vous êtes toujours ensemble.
On est toujours ensemble. On a changé simplement notre mode de vie.
C'est ta femme.
Mais c'est ma femme, oui, bien sûr.
Et ta fille, elle sait toute cette histoire?
Tu vois, en fait, quand tu... Pardon?
Ta fille, Tess, elle sait tout ce que tu as traversé avant d'arrêter?
Oui, on en a un peu parlé. Elle sait que j'ai consommé ça, mais on n'est jamais trop rentré dans les détails avec Tess. Comme avec Tristan, mon beau-fils, qui est le chanteur de Walter Astral, qui est un groupe qui est en train de sortir en ce moment,
wow.
Et qui est un groupe émergent de la scène. Électro-pop.
Ton beau-fils, c'est-à-dire le...
C'est le fils de Valérie.
De ta femme.
Oui.
Donc plus vieux.
J'ai plus dit aux enfants, voilà, j'ai fait ça. Et comme je l'ai dit au début de notre entretien, je leur ai dit, j'ai fait ça. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Je pense que c'est plus professionnellement où je pense que j'aurais pu entreprendre de beaucoup plus grandes choses. En étant plus visionnaire, c'est-à-dire en me projetant comme j'ai...
comme tu peux le faire maintenant.
Des mecs autour de moi qui l'ont fait à l'époque et qui ne se défonçaient pas.
Tu t'en es bien tiré quand
tu
même.
Tu vois, ouais, je m'en suis très bien tiré. Mais par exemple, tu vois, je te prends un exemple. J'avais un groupe à l'époque, je pense, qui aurait pu vraiment passer le cap comme Noir Désir l'a fait.
Ouais, mais regarde.
Oui, non, mais...
Non, mais je veux dire, c'est pour ça, moi, les si, je veux pas en parler, oui, parce qu'on sait raison. Pas comment ça finit, en fait.
Mais ce que
finit,
je veux dire,
en fait.
C'est que le fait de se droguer...
Il a passé le cap, le mec, mais ouais. Il a pas arrêté de se défoncer, en fait.
Oui, mais le fait de se droguer a fait que j'avais pas une vision élaborée de ce qu'aurait pu être le plan de carrière de Black Maria, alors que je pense que si j'avais été un peu plus lucide, j'aurais capté des choses, mais bon.
On saura jamais.
Si, on saura jamais, t'as raison.
Juste pour terminer, moi, je pense que cet épisode peut durer très longtemps. Hein. On peut en faire deux ou trois avec. D'ailleurs, surtout un quatrième avec ta femme, puisque apparemment, elle pourra en parler mieux que toi.
je sais pas si elle acceptera, parce qu'elle est très sauvage.
Dans toutes les histoires que tu recueilles, est-ce que, d'abord, j'ai entendu quand même, il y en a pas mal de personnes qui t'appellent aussi pour parler d'addiction, même le soir. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'il y en a qui font écho à ton histoire, ou est-ce qu'il y en a même qui peuvent justement réveiller des capteurs éteints? Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu es par rapport au moment où les gens te parlent d'addiction?
Alors, mais alors moi, je peux te dire, je suis très solide aujourd'hui par rapport à ça.
Ouais.
Je n'ai aucune envie de me défoncer.
Est-ce qu'il y a d'autres drogues?
Il faut savoir juste un truc. C'est que prendre du Subutex, c'est pas grave. Tu peux prendre du Subutex 2 ans et décider d'arrêter. Tu peux en prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut comprendre aujourd'hui
comment on arrête le Subutex.
Le Subutex, on l'arrête progressivement. Mm. C'est un processus de dosage qui, si tu veux le moins souffrir, que tu diminues sur 6 mois.
Tu dilues même dans de l'eau.
Oui, tu fais vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, crois-moi. Parce que le plus dur, c'est quand tu es à 0,001 et que tu vas devoir te séparer de ce qui t'a sauvé.
Passer à zéro.
Oui. Parce que nous restons des êtres fragiles. Donc, ce que je veux dire aussi à ceux qui prennent du Subutex.
Ou qui hésitent à en prendre.
Ou qui hésitent à en prendre. Alors, ce n'est pas la même chose. Mmh. Parce que ceux qui hésitent à en prendre, je leur dis... Mais,
vas-y.
Mais vas-y, mec. Ou vas-y, meuf, on dit ça aujourd'hui. Vas-y, meuf.
Vas-y, frère.
Je déteste ça.
Frère.
Allez-y, les filles, allez-y, les garçons. Si vous avez envie d'arrêter, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement efficace. Et vous avez la chance. Vous avez la chance, bien évidemment, pour ceux qui prennent cette drogue qu'est l'héroïne, d'avoir un substitut. Ce qui n'est pas la chance. D'autres personnes qui prennent de la cocaïne, par exemple, où il n'y a pas vraiment de substitut,
même et
où
c'est très compliqué. Ouais.
Ou même l'alcool.
L'alcool, ça se saurait.
Donc, le Subutex, c'est vraiment le sésame.
Alors, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui en prennent, alors, c'est quoi?
Et ceux qui continuent à en prendre aujourd'hui, il est devenu un régulateur de l'humeur. Il n'est plus... Parce que voilà, prenons mon exemple. Je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, d'extrêmement sensible. Je suis un hypersensible. Je pense que j'ai un terrain extrêmement prolifique à l'addiction. Je le vois, par exemple, avec le jeu. Tu vois, les paris sportifs peuvent vite m'aspirer si je ne fais pas attention. J'ai eu une addiction, Valérie, la pauvre.
Au sexe ?
Non. Pas du tout. Pas du tout. Le sexe, c'est pas du tout mon truc.
C'est quoi, Valérie, la pauvre?
Non, Valérie a eu à subir une addiction à FIFA, à la PlayStation. Eh oui, les filles. Parce qu'après l'héroïne, elle a connu 2 ans d'enfer où je suis tombé là-dedans.
T'es tombé dans FIFA?
Je suis tombé dans FIFA.
Wow.
Non, mais je suis tombé dans FIFA. C'était il y a maintenant, je pense, 7-8 ans. Où même toute mon équipe de tournage dans les yeux d'Olivier en a souffert aussi, parce que on allait dans des hôtels où j'exigeais qu'il y ait la 5G, où, c'était la 4G à l'époque, où il fallait que je puisse jouer à FIFA le soir. J'étais devenu totalement cinglé avec ça. Et à l'époque, j'évoque cet épisode, et vous allez comprendre pourquoi c'est important que je l'évoque. C'est vraiment là que les paroles de ma femme ont résonné. Parce que, tu sais, j'ai la tête dure, hein, comme tous les
dépendants.
Les dépendants. Et elle m'a toujours dit, tu as un terrain vraiment à l'addiction, Olivier. Et moi, je lui dis, mais non ! Non, je te dis que non, c'est fini, j'avais l'héroïne, mais tu sais, têtu comme une mule. Et puis, je suis un orgueilleux. De toute façon, je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas un ego particulier. Tu vois ce que je veux dire, Keren?
Je vois.
Bon. Si on a eu envie d'être devant la scène, si on a eu envie de chanter...
On pense que nous, on peut y arriver. Applaudi. Nous, c'est
non,
pas
mais
pareil.
C'est parce qu'on aime aussi qu'on nous regarde. Mmh. On aime être aimé. On aime... Donc, on a besoin de quelque chose. Et longtemps, ça me faisait chier quand Valérie me disait « T'as un terrain addictif, fais attention. » De toute façon, elle a toujours eu que des paroles justes. Juste à mon égard, parce que c'est la femme qui me connaît le mieux. Elle sait qui je suis. Elle sait que je suis fragile. Encore aujourd'hui, je suis fragile.
On le sera toute notre
oui,
vie.
Oui, sauf que aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Et donc, j'ai aussi mon meilleur ami Claudio, qui le fameux de la paix, protection judiciaire de la jeunesse. J'ai aussi Darko, que tu connais.
Ah oui,
qui est, guitariste. Qui est le guitariste de Marc Lavoine.
Et puis qui aujourd'hui est quand même le fiancé de notre amie
voilà,
Élodie.
Élodie. J'ai des personnes qui aujourd'hui sont importantes dans ma vie. Katia, aussi Maxime, qui est ma productrice de Dans les yeux d'Olivier. Michel Morinière aussi, qui a été mon bras droit. J'ai des personnes qui sont capables de me dire « Oh, hey,
ouais, tu déconnes.
Ferme-la, là, ouais. Tu déconnes.
» Moi aussi, non, mais j'avoue que ça change tout.
Ça change beaucoup de choses parce que...
En fait, j'appelle ça des garde-fous, moi, vraiment.
Oui.
Parce qu'on est fou, en fait.
Bah oui. Bah oui, on est fou. Bien sûr qu'on est fou. Quelque part...
Non, mais de le savoir, en fait, le fait de savoir que t'es un terrain addictif, déjà, c'est bien d'en avoir conscience, mais il y a aussi autre chose, c'est que je pense que d'arrêter de culpabiliser quand d'un coup on va tomber un peu dans le jeu, ou un peu dans ci, ou d'un coup ça va être le Coca Zéro, ou d'un coup ça va être je sais pas quoi, il y aura peut-être toujours quelque
FIFA,
chose.
FIFA, c'est pénible.
Ouais, FIFA, c'est pénible
pour
les
l'entourage.
Autres.
Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fout à la fin?
Et tu
quand
sais
tu vois d'où on vient.
Ouais.
Non, mais
oui,
d'où
on
tu
s'en
viens
fout, mais bon, voilà, j'ai fait souffrir encore ma famille.
Mais c'est-à-dire quoi? Tu passais 18 heures sur FIFA?
Ah, mais ouais. J'étais champion de première division, tu sais, en ligne et tout, quoi.
Wow.
Je suis arrivé au bout. Et alors, quand je suis arrivé au bout...
Il fallait autre chose. Et ouais.
Non, ça y est, je suis arrivé au bout. Et là, je me rappelle, c'était en Corse. J'étais en tournage à Ajaccio.
Mec, le soir dans l'hôtel. Même pas de la Corse.
Le soir dans l'hôtel, j'arrive donc... tu sais, je joue en ligne et tout, mais prêt. Mais en plus, c'est fou, quoi. C'est une vraie addiction.
Mais rien que d'en parler, je sens que ça réveille en toi les capteurs fifiques.
Non, pas du tout. Les capteurs fifiques, c'est pareil. Il n'y a pas de substitution. Juste, il y a une pensée qui les a fermés.
C'est ta femme.
C'est ma femme qui m'a dit « Est-ce que tu te rends compte le temps que tu as perdu avec ça, quoi ?» Et je me suis dit... Mais
c'est un sacré Colombo, lui. Hein.
Tellement raison.
Comme disait sa femme.
Elle a tellement raison. Elle a tellement raison.
C'est horrible le temps qu'on perd. En fait,
le
moi,
temps
je trouve
qu'on
que.
Perd, tu vois, parce que quand t'es addict aux séries, bon, bah, au moins t'apprends des choses. Quand t'es addict au cinéma
et
ou à la lecture.
Et encore.
Si,
et
si.
Encore. On se fait happer par un truc qui a été créé
non,
pour
j'ai,
nous entourer.
J'ai regardé plein de séries et là, je te dis.
Oui, il y a des moments
mon
très forts.
Mon prochain but, c'est de faire mon
faire
premier long métrage. Non, pas une série. Mon premier long métrage. C'est mon bébé du
d'abord
moment.
D'abord, le livre, alors, c'est quand?
Non, le livre, il est écrit.
Mais oui, mais
ça
c'est
y,
quand
il est
ça
en janvier 2026,
bah,
chez Fayard. Mais
c'est merveilleux,
on est en
ça.
Correction en ce moment.
Je pourrais le lire?
Bah, bien sûr, tu pourras le lire. Il est question de tout ce dont on vient de parler là, du syndrome de l'imposteur qui touche énormément de gens. Qui touche
en
pratiquement,
fait,
à part les cons... Je pense qu'il touche tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais quand je parle des cons, tu
ouais.
vois, je parle des gens qui ne doutent de rien. Et quelqu'un qui ne doute de rien est con.
Mais non, mais tout est lié parce qu'en fait, le fait d'être HPI et HPE, parce qu'au potentiel émotionnel, c'est aussi de capter énormément émotionnellement
c'est
ce
pas
qui
un,
se passe.
C'est pas un service d'être
non,
au potentiel.
Non, c'est ce que je te dis. Et c'est pour ça qu'en fait, ça vient le fait que, on soit que tu es une éponge, par exemple, que tu es. Tu te sens tellement touché par énormément de choses, on met une protection et la protection, souvent, c'est cette bulle-là qu'on a créée et l'addiction. FIFA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette bulle, tu te sens protégé, quoi. Tu
oui,
te sens
ou,
bien
ou,
parce qu'il
ne
peut rien t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre.
C'est le moment. Moi, je me suis souvent dit, en fait, que j'ai toujours eu, depuis que je suis enfant, conscience que je me construisais avec l'autre et conscience du monde dans lequel je vis.
Mmh.
Mais au début... Tu vois, dans mon bouquin, je raconte que, au plus loin que je me souvienne, je suis hyper content de ma première sortie au parc.
Waouh.
Tu vois ? Et je suis hyper content parce que je regarde, il y a d'autres enfants, je suis hyper... c'est une émotion pour moi énorme et tout. Et puis, je fais mon premier pâté qui ressemble à rien, quoi. Et à un moment, je veux du sable mouillé. Et donc, il y en a dans le coin opposé où il y a un petit qui est en train de lui offrir faire son pâté. Et donc, moi, je vais chercher du sable mouillé. Et au moment où je vais prendre le sable mouillé, bim, je me prends un gros coup de pelle dans la gueule parce que le gamin, lui, il a décrété que c'est son coin et que c'est à lui. À partir de ce moment-là, je prends cet exemple-là.
J'espère qu'il est dans ton livre, celui-là. Non,
bien sûr,
le moment du coin, bien le sûr. Coin du sable mouillé.
Bien sûr.
En sachant que ce sont que des chiens qui pissent dedans,
et
en plus.
Et le coup de pelle dans la tronche.
Le coup de pelle dans la tronche, c'est une métaphore de la vie.
Et finalement, quand tu as conscience dans le monde dans lequel tu vis et des autres, c'est surtout que j'ai vite réalisé que l'homme était mauvais. Dans sa grande majorité, l'homme pense à sa gueule, l'homme est sur son nombril.
Je viens d'avoir un flash, en fait, que j'avais jamais vraiment pensé, à part le fait qu'on fuit la réalité, évidemment, en se droguant. Mais je trouve qu'en fait, ce sont des personnes souvent qui ont pris conscience que la vie, c'était pas marrant, et que en fait, c'était sérieux, quoi, et que c'était très difficile de survivre à ça.
Beaucoup de méchanceté dedans, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits.
Et quand tu es dans ton jeu, en fait, c'est même pas tant la fuite, c'est de se créer un monde qui est faux. Se dire, ce faux monde-là, il est moins dangereux que le vrai.
C'est vrai. Et moi, ma chance, en fait, d'abord, ma chance a été de... D'abord, je te l'ai dit, voilà, ma chance a été de rencontrer ma femme. Je crois que... Je lui ai dit souvent, hein, de toute façon, qu'elle m'a
blessé. Là, elle va bien le savoir.
Oui, mais elle le sait déjà.
Oui, mais là, j'espère qu'elle l'écoutera, parce que moi-même, j'ai envie de lui dire, Valérie...
Tu sais quoi ? C'est elle qui m'a parlé de ton podcast.
On t'aime, Valérie. Oui, c'est vrai, en plus.
C'est elle qui m'a parlé de ton podcast, parce que tu m'en avais pas parlé au début.
Oui, mais même, je pense que quand tu... Bon, non, ça, c'est une autre histoire.
Non, mais pour qu'on soit très vrai. La première fois que tu m'en avais parlé, je t'ai dit, non, j'en parlerai pas. Et puis, elle m'a dit...
Oui.
J'ai écouté un podcast d'une nana qui s'appelle Keren.
C'est fou.
C'est
et tu lui
super.
As dit, mais je viens de l'interviewer en plus pour son truc.
Et c'est elle qui m'a dit, écoute, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien fait. Et...
Parce qu'il m'a dit oui, puis il m'a dit non, puis il m'a dit oui, puis il m'a dit non. Et en fait, c'est grâce à Valérie. Donc moi aussi, je remercie Valérie pour ses 6h30 d'interview avec ton homme. Merci Olivier.
Merci à toi. C'était très agréable.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.